France Musique. Musicopolis. Le Miserere après Allegri. J'ai déjà eu l'occasion dans Musicopolis de vous raconter l'histoire extraordinaire du Miserere d'Allegri. Une œuvre secrète, tellement secrète que ne pouvant être recopiée, elle a été réécrite par divers musiciens qui l'avaient entendue. Puis les différents manuscrits se sont mélangés, formant un genre d'omni, objet musical non identifié, une sorte de chimère, plus très ressemblante avec l'original, mais qui a fait le bonheur de générations d'auditeurs. Le texte du Miserere, un psaume de pénitence qui est associé à l'office des ténèbres, chanté pendant les trois derniers soirs de la Semaine Sainte, a depuis longtemps attiré les compositeurs. Miserere mei Deus secundum magnam misericordium tuam. Aie pitié de moi, Dieu, dans ta grande miséricorde. Un texte mis en musique dès le Moyen-Âge, toujours avec un caractère très expressif, associé à la période de la Passion. Si le Miserere d'Allegri a bien sûr un statut tout à fait particulier, il y en a bien d'autres qui peuvent eux aussi émouvoir le pénitent et le mettre dans un état tout aussi réceptif. Je voudrais aujourd'hui vous proposer un petit choix, subjectif, de quelques autres de ces Miserere. La tradition veut que dans la mise en musique du Miserere, les versets impairs soient harmonisés et alternent avec les versets pairs chantés en grégorien. C'est vers Alessandro Scarlatti que le Collège des chanteurs de la chapelle papale s'est tourné à la fin du XVIIe siècle pour qu'il leur compose un Miserere pour changer un peu de celui d'Allegri qu'il chantait tous les jeudis saints. Il semble bien que la partition de Scarlatti a été chantée en 1708, mais mal aimée par les chanteurs. Si l'on en croit Giuseppe Baini, compositeur qui a dirigé le chœur papal, plus les beautés du Miserere d'Allegri augmentaient, plus l'ennui augmentait en écoutant les autres, qui ne soutenaient guère la comparaison. La partition de Scarlatti, riche et raffinée, avait pourtant de quoi plaire, mais le chœur n'en a pas voulu et elle s'est perdue dans le fond de la bibliothèque vaticane. À partir de 1714, on n'a plus jamais entendu à la chapelle Sixtine le Miserere d'Alessandro Scarlatti, remplacé par celui de Tommaso Bai. De fait, une version modernisée de celui d'Allegri, tout pile ce qu'il fallait pour satisfaire les chanteurs. Pendant que les chanteurs de la chapelle Sixtine faisaient la fine bouche sur tout ce qui ne ressemblait pas assez au Miserere d'Allegri, le petit frère d'Alessandro Scarlatti, Francesco de son prénom, après s'être fait renvoyer de Sicile, où il était maître de chapelle en raison de ses sympathies autrichiennes, se présenta à Vienne pour devenir assistant Kapellmeister à la cour impériale. Il a le soutien total de Johann Fuchs, le Kapellmeister en titre. Pour montrer ses talents, il présente un Miserere, pour chœur, soliste et instrument. Francesco Scarlatti n'a pas eu de chance. Malgré ses sympathies autrichiennes, à Vienne, on lui a préféré Antonio Caldara pour tenir le poste de vice-Kapellmeister. Scarlatti retourne donc en Italie, puis il passe en Angleterre où il a été invité par Handel et il finira sa vie en Irlande, maître de musique à Dublin. Il fait partie de ces musiciens qui, malgré leurs grandes qualités, en raison de circonstances malheureuses, n'ont pas fait la carrière de premier plan que leur talent aurait pu leur apporter. Absolument le contraire d'un autre musicien dont je vais vous parler à présent, né en Italie et venu en France à l'âge de 14 ans. En 1663, à 30 ans, lorsqu'il compose son Miserere, le premier de ses grands motets, le petit Lully italien, avec un I, est devenu le grand Lully français, avec un Y. S'il n'invente pas le genre du grand motet avec chœur, soliste et instrument, en tout cas, il lui donne ses lettres de noblesse. Avec Lully, les sentiments exprimés dans le texte du psaume 50, la pénitence, l'affliction, la douleur, acquièrent, pour plaire à Louis XIV, une dimension véritablement royale, loin du mystère de la version d'Allegri. Fin mars 1663, après un office des ténèbres où on a entendu le Miserere de Lully, on peut lire ces vers dans la gazette La Muse historique. Je cite « Quand ces ténèbres j'entendis, je croyais être en paradis, et jamais de telles merveilles n'avaient enchanté mes oreilles. » Plus tard, à propos de la même œuvre, Madame de Sévigné écrit à sa fille « Il y eut un libéra où tous les yeux étaient pleins de larmes. Je ne crois point qu'il y ait une autre musique dans le ciel. » Lorsque Lully compose son Miserere en 1663, l'Office des Ténèbres est devenu à Paris un véritable spectacle. En dehors de l'église des Feuillants, rue Saint-Honoré, à laquelle se rendent le roi avec sa famille et de nombreux personnages, quelques autres églises attirent la foule grâce à leur musique, leurs chanteurs ou leurs chanteuses. Cette tradition va durer jusqu'à la Révolution. Michel Richard de Lalande a ainsi composé dans les années 1700 un Miserere pour le couvent des Dames de l'Assomption, dont les messes avaient très bonne réputation sur le plan musical. Pas d'orchestre ici, mais seulement un continuo qui accompagne une voix soliste, laquelle est relayée par le chœur des nonnes pour les versets pairs. Avec l'influence de la musique italienne, qui par ses lignes très expressives sait donner l'idée de la douleur et de l'affliction, les compositeurs français ont développé eux aussi une manière particulière, une densité émotionnelle dont on pourrait dire, comme le faisait mon professeur de contrepoint, « la cuillère tient debout ». Nicolas Clérambeau, connu aujourd'hui surtout pour ses cantates, a été le maître de musique de la maison royale de Saint-Cyr, où les jeunes filles nobles recueillies par Madame de Maintenon étaient éduquées. C'est pour cette institution qu'il a composé son très pathétique Miserere, où on sent la marque de l'expressivité italienne. Et pendant ce temps, en Allemagne, l'influence de l'Italie se faisait entendre également. En 1730, Johann Adolf Hasse, surnommé le divin saxon, élève d'Alessandro Scarlatti, professeur à Venise, puis champion de l'opéra seria dans toute l'Europe, Hasse donc fait entendre à Dresde le Miserere qu'il avait composé naguère pour les filles d'un hospédalier de Venise. Quelque temps plus tard, le collègue de Hasse, à Dresde, le contrebassiste et compositeur Jan Dismas Zelenka, compose à son tour un Miserere tout à fait dramatique. Pour finir cette petite revue de quelques miserere des XVIIe et XVIIIe siècles, j'en arrive au jeune Wolfgang Amadeus Mozart. En avril 1770, à 14 ans, de passage à Rome avec son papa, il entend le Miserere d'Allegri. Voulant en conserver le souvenir, alors même que la partition était gardée secrète et interdite de sortie hors de la chapelle Sixtine sous peine d'excommunication, l'adolescent la copie illico de mémoire. Quelques semaines plus tard, les Mozart sont à Bologne, où Wolfgang va se présenter pour être admis à l'Académie philharmonique. À cette occasion, il doit écrire un morceau qui respecte les règles du contrepoint néo-palestrinien. Et il prend quelques leçons avec le Padre Martini, célèbre pédagogue. C'est à cette époque, en guise d'exercice, et en se rappelant ce qu'il a entendu à Rome, qu'il met en musique les vers impairs du Miserere. À les écouter, on n'aurait jamais imaginé qu'ils soient de Mozart. Miserere en la mineur, Köchel 85 de Mozart, Maurizio Manara à l'orgue avec le chœur Ars Antica, dirigé par Marco Berini. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Philippe Thibault pour le mixage et Élise Cravette pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.